le chapitre 25. Chapitre 25 du Tanya, donc avec ça, en fait, on va terminer le livre blanc. On va terminer le cycle. En fait, le Tanya est basé sur un pasouk. Il y a un pasouk, un verset de la Torah, que Moïse a dit, et dans ce verset se cache en vérité le secret du Tanya. C'est quoi ce verset ? Moshe Rabbeinu, il rassemble les enfants d'Israël. Et il leur dit, qu'est-ce que vous avez à vous inquiéter ? Bonsoir. Kikarov elecha adavar meod, beficha uvilvafra la asoto. Moshe Rabbeinu parle aux enfants d'Israël, et il leur dit, qu'est-ce que Hachem vous demande ? Hachem vous demande uniquement de le craindre, car, Karov, chapitre 25, Karov elecha adavar meod, la chose est très accessible, bonsoir, beficha uvilvafra la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire.
C'est
dans le Deutéronome. D'accord ? On va t'inviter avec moi ? Alors, on a posé une question très simple au début du Tanya. On a dit comment Moshe Rabbeinu il peut venir et dire que c'est facile. Comment Moshe Rabbeinu il peut dire que faire la Torah et Mitzvot c'est facile. Nous on est des hommes qui sommes sur le terrain. Qu'est-ce qu'il pense sur le terrain? C'est facile de faire les Mitzvot? Bien sûr que c'est pas facile. Il y a des Mitzvot qui sont très faciles, des Mitzvot qui sont moins difficiles. Par exemple, tout à l'heure je parlais avec un jeune. Je lui ai dit, prends sur toi de mettre tes tefillines tous les jours. Il m'a dit, je peux pas. Je lui ai dit, mais c'est 5 minutes. Il m'a dit, je peux pas, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas possible. Mais chacun, il a ses mitzvot sur lesquels il bute. Est-ce qu'on peut comprendre? C'est compliqué. Comment Moshe Rabbeinu, il peut venir et il peut dire, Kikarov elecha adavar me'ob et ficha ou yofra la soto. Comment Moshe Rabbeinu, 4 semaines avant son départ de ce monde, il appelle les enfants d'Israël, il leur dit, vous inquiétez pas, c'est facile. Comment c'est facile? C'est pas facile. Alors, Béhémeth, c'est une question que la Gemara pose dans le traité Brachot. Elle pose la question. Elle dit, mais comment Moïse il peut dire c'est facile? Et la Gemara, elle répond, elle dit, oui, pour Moïse c'est facile. C'est-à-dire quoi pour Moïse c'est facile?
Pas facile pour les autres.
C'est-à-dire c'est pas facile pour les autres. Mais le problème, c'est que Moïse, quand il a parlé, il a dit qu'Ikarov est l'Echa. Donc, quand on dit l'Echa en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle à chacun de nous et il nous dit, sache que c'est facile pour toi. Alors, comment ça marche? Bien sûr, c'était le premier chapitre. Premier chapitre qu'on a commencé du Tanya. Première notion. Et on avait expliqué, et c'est avec ça qu'on a démarré, et Bezrat Hashem avec ça qu'on va terminer, parce que le chapitre 25, c'est la fin du premier tronçon du Tanya. D'accord? Donc on avait expliqué dans l'introduction qu'en vérité, il y a un amalgame que les gens font qui est une erreur. Les gens, dès qu'ils entendent le mot Karov, ils traduisent Karov par facile. Traduisent Karov par facile. Ça veut dire, quand ils entendent Karov, ils disent oui. Moïse, il a dit c'est facile. Il dit non. Karov, ça veut pas dire facile. Ça veut dire accessible. Personne n'a dit que faire la Torah et Mitzvot, c'est facile. Par contre, c'est accessible. Personne peut dire c'est pas faisable. Et je voudrais revenir pour expliquer ça, d'une histoire qu'on a développée la semaine dernière au cours de jeudi matin. Une notion, je vais revenir juste brièvement. À propos de l'histoire des explorateurs. Juste 2 secondes, parce que c'est une notion très importante. Tout le monde, tous les commentaires posent la question, quelle était l'erreur des explorateurs? Moshe Rabbeinu, il les a envoyés pour faire un rapport. Dans ce rapport, il leur a demandé, dites-moi, comment est la Terre? Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle n'est pas grasse? Est-ce qu'il y a des murailles? Est-ce qu'il n'y a pas de murailles? Est-ce que les gens sont forts? Est-ce que les gens ne sont pas forts? Il a demandé de faire un rapport.
D'être factuel.
De faire un audit factuel. Les explorateurs ont fait le rapport. Ils ont fait le rapport, ils ont tout ce qu'on leur a demandé, ils ont amené. Où est le problème? Prends les punis. Sur ça, il y a un commentaire qui dit que l'erreur qu'ils ont fait, c'est parce que suite à ce rapport, ils ont tiré une conclusion. Quelle conclusion ils ont tiré? Ils ont dit, au vu des éléments qu'on a cités, on ne pourra pas aller en Israël. Et ça, le rabbi l'explique, il dit que ça, en vérité, c'était la plus grande erreur qu'ils ont fait. Qu'un juif, il dit, j'arrive pas à comprendre comment je vais faire la mitzvah. Ok, c'est pas un problème, on peut poser des questions. Mais de venir, de dire, une mitzvah n'est pas faisable, ça, c'est pas dans la bouche d'un juif. De dire, moi, j'y arrive pas encore. De dire, j'ai du mal. J'ai pas encore compris comment c'est possible. Bon, c'est pas de problème, tu peux poser des questions. Mais de venir et de dire, une mitzvah n'est pas faisable, ça, c'est pas dans la bouche d'un juif. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le concepteur. Le concepteur d'une machine, c'est celui qui connaît le mieux la machine. Et si Akadosh Baruch Hu, il a donné le mode d'emploi qui est les mitzvot, ça veut dire qu'il sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est la même chose. Pourquoi on est tombé dans le piège, dans le panneau tout à l'heure? Parce que, on a traduit Kikarov par facile. On a dit oui, t'as vu, Moïse, il a dit c'est facile. On a dit mais non, c'est pas facile. Non, on n'a pas dit Karov, c'est facile. Karov, ça veut dire accessible. Personne n'a dit que la Torah Mitzvot c'est facile. Par contre, ce que Moshe Rabbeinu dit, jamais écoutez la voix de votre Yetzer Hara qui vous dira, c'est impossible, tu n'arriveras pas à faire la Mitzvah. Ça, il ne faut pas écouter. Tu peux te dire, je ne comprends pas comment je vais le faire, tu peux te dire, c'est difficile, tu peux te dire, oh, j'en peux plus, là, tu peux parler, pas de problème. Mais de dire, c'est infaisable, la faisabilité est nulle, c'est pas possible, ça, c'est pas dans la bouche d'un juif. Et ça, c'est le fait de Kikarov et Lecha. Bon. Maintenant, dans le Tanya, il a posé la question au début, dans le premier chapitre, et là, je vais revenir au début. Il a dit, mais quand même si tu vas dire que Moshe Rabbeinu dit que c'est faisable, concrètement, pas tout est faisable. Combien de juifs autour de la table ici peuvent dire qu'ils font toutes les mitzvot?
Aucun.
Moi, le premier. Je ne fais pas toutes les mitzvot. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il vient, il dit Kikarov? C'est facile, non? C'est accessible, c'est pas accessible.
Déjà, certains ne peuvent pas les faire. Parce
non, oublions ça. Mettons les mitzvot qu'on peut faire. Combien on fait déjà? C'est compliqué. C'est là que l'Admor HaZaken, il a donné une très très belle histoire. Je ne sais pas si vous en rappelez, ça fait quand même 2 ans. Je vais la répéter maintenant. Et après, Bezrat Hashem, on va rentrer dans le chapitre 25. C'est l'introduction. Il a raconté une histoire pour illustrer comment, en vérité, quel est le chemin et quelle est l'approche du Tanya. Il a raconté l'histoire suivante. Une histoire qui est racontée dans la Gemara. Il y avait une fois un sage, si je me souviens de ce moment, c'était Rabbi Yochanan. Il était en train de faire la route d'une ville à l'autre. Donc il est passé par la route, par la campagne, etc. Il passe par un endroit désert, et à un moment, il arrive devant une intersection. Il n'y a pas de panneau comme aujourd'hui, dans lequel tu t'es inscrit. Aujourd'hui, dans les panneaux, on t'inscrit la ville, on t'inscrit même les kilomètres, le nombre de kilomètres qu'a la ville. À l'époque, ils n'avaient pas ce luxe. Donc, tu arrives devant une intersection, tu ne sais pas où aller. On t'a dit, avance tout droit, à un moment, tu as une intersection. Qu'est-ce que tu vas à droite, tu vas à gauche. Alors, l'histoire raconte que Rabbi Yochanan, il arrive devant l'intersection, et il veut aller à une ville. Et il ne sait pas pour aller à la ville, est-ce qu'il doit suivre le chemin de droite ou le chemin de gauche, qui sont deux chemins complètement différents. Il y avait un enfant qui était assis. Ah, vous rappelez? Ouais, ça fait 2 ans. D'accord. Il y avait un enfant qui était assis pile à l'intersection. Et Rabbi Yochanan nous pose la question. Il lui dit, dis-moi, quel chemin il faut prendre pour aller à telle ville? Alors l'enfant, il lui dit comme ça. Il lui dit, si vous prenez le chemin à droite, c'est un chemin qui est long mais qui est court. Si vous prenez le chemin qui est à gauche, c'est un chemin qui est court mais qui est long. Lui, il a entendu court, il a dit, bon, court, il a pris le chemin de gauche. Il est parti, il avance. Et Bémet, il voit que ça y est, il voit de loin la ville. Mais il arrive devant la ville, des murailles, des barbelés, des trucs. Du coup, impossible de rentrer. Alors, il reprend le chemin, il revient à l'intersection et il voit le gosse. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as raconté? Tu m'as dit que le chemin, il est court, mais il est fermé, ce chemin. Il dit, non. Je vous ai dit, il est court, mais il est long. Par contre, l'autre, il est long, mais il est court. C'est-à-dire, peut-être qu'en kilomètres, il y a plus de kilomètres, mais il est court. C'est comme vous savez dans les GPS maintenant. Dans les GPS, ils vous donnent le chemin le plus court et le plus rapide. C'est pas la même chose. Par exemple, pour aller d'un point A à un point B, on peut te faire passer par les routes par la ville et avec les feux rouges, etc. D'un autre côté, t'as un autre chemin avec le périph, qui est peut-être plus long, mais qui est plus rapide. Et dans les faits, il est plus rapide, t'arrives plus vite. Alors en fait, ça c'était ce que l'enfant a répondu à ce rabbi. Il lui a dit, il y a le chemin court et long, c'est-à-dire tu crois que tout de suite tu vas attraper alors qu'en vérité, dans les faits, t'arrives à rien du tout. Il y a le chemin long et court. C'est un chemin qui est très long, qui prend du temps, mais avec le temps, quand on y arrive, on peut arriver à quelque chose de concret, de durable. Quelque chose qui tient la route pendant longtemps. Et ça, en vérité, c'est la différence d'approche entre la chassidoute Rabad et d'autres chassidoutes. Il y a d'autres chassidoutes, sans citer de nom, après chacun il pensera à ce qu'il veut, il y a d'autres chassidoutes dans lesquelles on te dit, il faut décoller tout de suite. Ça veut dire, il faut décoller, il faut, on te donne un petit coup, on te donne ce que tu veux, il faut décoller tout de suite. D'accord? Hein? Non mais c'est une chita. C'est une chita, attention. Ce qu'on gagne dans cette chita, c'est que tu fais du chiffre tout de suite. Et quand tu comprends, quand tu commences à gagner tout de suite, ça donne envie d'avancer. Quand d'un autre côté, un autre, tu dis, ah, avance, le chemin est long. Il dit, ah bon, le chemin est long, je sais pas quand je vais arriver. Entre temps, il s'arrête, il se repose, etc. Mais l'Admor HaZaken, d'emblée, il a annoncé la couleur dans l'introduction du Tanya. Il a dit, celui qui croit qu'il va ouvrir le Tanya et qu'il va avoir des lumières, il peut fermer le livre, il peut chercher ailleurs. C'est pas pour ça qu'on vient ici. On n'est pas venu ici pour avoir un chemin court, mais qui est en vérité long, parce que tu crois que t'as tout trouvé, mais t'as rien trouvé. Enfin, t'as rien trouvé à long terme. Le but du Tanya, c'est l'approche. Après, chacun a son approche. Chaque approche est bonne. L'approche du Tanya, c'est, il te dit, il faut prendre son temps, il faut développer. Tu vas prendre un chemin qui est long. Par contre, ce que tu vas gagner, c'est que le chemin qui est long, comme c'est le chemin de la compréhension et de la logique, etc., quand tu arrives au bout du compte, tu peux dire que tu as quelque chose dans ta tête, tu peux dire que tu as acquis quelque chose, tu as atteint quelque chose. Ça, c'est notre but. Maintenant, vous allez voir ce chapitre 25 qu'on va faire. On va reprendre des notions qu'on a déjà vues dans les chapitres d'avant. C'est très intéressant comme chapitre. Mais ça va être un chapitre qui va être un peu un condensé de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Très intéressant. Pour expliquer comment, au vu de tout ce qu'on a étudié, comment la Torah est Karov et Lecha Adavar Me'od, comment la chose est accessible, comment, avec tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, donc le Bédoni, tout ce qu'on a cité, on va comprendre comment aucun juif ne peut dire « je peux pas ». Le mot « je peux pas », il faut l'enlever de notre lexique. Il faut l'enlever. J'arrive pas, à la limite, pas de problème. J'arrive pas, pas encore, mais ça tu peux dire. Mais le mot « je ne peux pas », il faut l'enlever de notre lexique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un juif qui dit « je peux pas faire la mitzvah ». C'est pas possible. Comment on va expliquer maintenant? Ok? Donc là, en fait, ça va être la conclusion donc des 25 chapitres. Ok, on va continuer. Donc, Zéou, Shekatou, avec ça, on va comprendre ce qui est écrit. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si c'est des questions. Hein, pas de questions, des questions jusqu'ici? D'accord. Voilà, donc notre but maintenant, c'est d'expliquer avec le chapitre précédent, avec tout ce qu'on a compris, comment on peut prouver que la Torah et mitzvot, c'est quelque chose d'accessible. Voilà, ça, c'est notre but. Zéou, Shekatou, c'est ça ce qui est écrit. Kikarov et Lecha, donc c'est dans la paracha Nitzavim. Hein, c'est une paracha qu'on lira quand on reviendra de vacances, etc. Bon, alors, entre temps, il va se passer beaucoup de choses. Mais Zéou Shekatouv, voilà ce qui est écrit. Vous avez les Tania? Tiens. Alors, tiens, voilà ici. Il y a ici ce livre. En français, celui qui veut. En français? Quelle page en français, Dan?
309.
Serge, il n'est pas encore là. Il nous aurait donné la page, sinon.
Non, Serge, il t'aurait dit 308, c'est une très bonne page.
Ah! D'accord, j'ai compris.
Tu veux lui dire?
Bon, je lui dis rien. Pas parce que c'est une Peugeot.
Non, certainement pas.
Mais Zéou Shekatouv, Kikarov et Lecha Davar Me'ot. Maintenant, on va comprendre le verset que Moshe Rabbeinu lui dit, quand il s'adresse aux enfants d'Israël, donc c'était quelques jours avant son départ de ce monde, quand il leur dit, Kikarov et Lecha Davar Me'ot, la chose est très accessible. Et il a tapé fort, là. Il n'a pas dit seulement accessible, il a dit très accessible. Quand on voit les difficultés qu'on a à faire les mitzvot, tu dis, attends, waouh, on est par la même personne, on est dans le même monde. Moshe Rabbeinu, il a dit, mehod en hébreu, ça veut dire quoi, Michael? Très accessible. Comment on peut parler comme ça, que c'est très accessible? On l'avait expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Torah est très accessible? Shebechol et ou bechol sha'a. Qu'à tout moment, et à chaque instant. Beyado shaladam. Il est dans la possibilité d'un homme. Ou birchut ou, et c'est dans sa maîtrise, à lui seul. Personne peut décider à sa place. Léa vir ruach tout mikirbo. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Que finalement, faire une avéra, c'est une folie. Et qu'en vérité, on se laisse aller dans la folie. Alors bien sûr, une fois qu'on s'est laissé aller, après un moment, c'est trop tard, mais en vérité, c'est une folie. Personne peut dire, je ne peux pas me retenir. Bien sûr que le gars, une fois qu'il s'est retenu, qu'il s'est laissé aller, bah après, c'est trop tard. Mais chaque personne, c'est accessible pour tout le monde d'enlever Ruach Tout, ça veut dire l'esprit de folie qui est en lui. Donc c'est quoi l'esprit de folie? Ashtut ve'ashicha. Là, il rajoute un élément intéressant. Il dit la folie et l'oubli. Alors ça, l'oubli, on l'a pas développé. On l'a pas développé l'oubli jusqu'à maintenant. C'est une autre notion qui est expliquée ailleurs dans le Tanya. La notion que des fois, à force de faire une avéra, on oublie que c'est pas bien. Ça vous arrive des fois? Tu fais un truc. Au début, tu te sens pas bien, tu vois, de le faire parce que tu dis, attends, c'est une avéra. Et après, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à un point, tu oublies que c'est interdit. Ça veut dire que, à la limite, tu sens même plus que c'est un problème. Et il faut se rappeler. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est impossible de se le rappeler? Non. Rien n'est impossible. Personne peut dire que c'est impossible. Il suffit simplement de se reprendre. Tout le monde peut se reprendre, tout le monde peut avancer. Veliskor ou les horaires à Avato la Shemechad. Maintenant, il revient à une notion du chapitre 18. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 18. Que chacun de nous, au fond de lui, il a un amour caché vers Dieu. Cet amour caché est un amour de série. C'est pas quelque chose, une option. Qu'il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas. Vous vous rappelez le chapitre 18? On a expliqué que tout le monde a un amour caché envers Dieu. Tout le monde. Ça m'en prend l'appel amour caché, parce qu'il est caché. C'est-à-dire que des fois, on s'en rend pas compte qu'on l'a. Mais il y a des moments dans la vie dans lesquels il se réveille. Et finalement, quand on va voir un juif, quand on va le rapprocher de la Torah, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il n'y a pas besoin de lui dire, on va t'expliquer ce que c'est être un juif. Ne lui explique pas, il sait déjà ce que c'est être un juif. Juste, mets-le dans le bain et il va décoller. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois. Des gens comme ça, à côté de la plaque, tu leur mets les tefillines une fois, tu les amènes à la synagogue, et après ils décollent. Tu sais même pas comment ils décollent. Tu sais pas, tu peux pas expliquer. C'est même pas qu'ils ont écouté un cours ou une idée qui les a marqués, tu sais pas. Ils décollent. Ils partent. Impossible d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux l'amour caché. Seulement, ils le savent pas, et dès que tu les mets dans le bain, ben ça sort. Pourquoi il explique ça? Pour expliquer que personne peut dire je ne peux pas. D'abord, pourquoi tu peux pas? Faire une avéra, c'est une folie. Si j'oublie que c'est une avéra, c'est un oubli. Donc un oubli, il faut se le rappeler. En plus, en moi, j'ai un amour caché qui est en moi, donc deux séries, qui peut m'aider à faire les mitzvot. Donc j'ai tout en ma faveur. D'abord, faire une avéra, c'est une folie. En plus, faire les mitzvot, j'ai le moteur qu'il faut pour les faire. Pourquoi je les fais pas? Il y a des gens qui pensent, et ça je l'entends malheureusement, que faire les mitzvot, c'est que pour les religieux. Il dit, ah lui, le religieux, il sait ce que c'est faire les mitzvot. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est une erreur absolue, ça. D'accord? Oui, c'est une, on l'entend. Bon, ça c'est pour les religieux. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis athée. Moi, je suis pas croyant. Je suis pas croyant. Rasvei shalom, ça. Un juif non croyant, est-ce que ça existe?
Non.
Ça n'existe pas. Un juif qui se dit non croyant, ça existe.
Il le dit.
Il peut raconter ce qu'il veut. D'accord? Il peut dire qu'il est bleu, il sera bleu aussi. Bon, il peut raconter ce qu'il veut. Hein? Est-ce qu'un juif peut être non croyant? C'est impossible. Au fond de lui, il est croyant. Et d'ailleurs, il y a des situations de la vie qui le rappelleront. Donc, Vezeu Shekatou, avec ça, on va comprendre ce qui est écrit, ou Vilvafra. Rappelez-vous maintenant, qu'est-ce qu'il dit le verset? Kikarov, Elecha, Davar Meod, Beficha, ou Vilvafra, La Asoto. La chose est accessible, Beficha, dans ta bouche, ou Vilvafra, dans ton cœur, La Asoto, pour le faire. Ça veut dire quoi? Pensée, parole, action. Trois choses qu'on peut dominer. Très important. Marshava, Dibour, Maasi. Est-ce que je peux décider de changer mon caractère?
Non.
Non.
Caractère, c'est caractère.
La réponse est non. On peut pas décider de changer son caractère. Par contre, est-ce que je peux décider de maîtriser ma pensée, maîtriser ma parole, maîtriser mon action? Ça, je peux le maîtriser. Ça, personne peut décider à ma place. Mais décider de changer de caractère, ça, je peux pas décider. D'ailleurs, en passant, il y a un commentaire intéressant du rabbi. Il dit, c'est la raison pour laquelle, vous savez, Yehoshua, il a envoyé les explorateurs. Et lorsque Yehoshua il envoie les explorateurs, Moshe Rabbeinu il envoie les explorateurs, ils sont rentrés en Israël. Et Yehoshua il a envoyé les explorateurs qui sont restés seulement à Jéricho, ils ne sont pas rentrés en Israël. Pourquoi cette différence? C'est ce qu'explique le rabbi dans un mamar. Le rabbi explique dans un mamar, il dit parce que Moshe Rabbeinu il leur a demandé de rentrer en Israël. La terre d'Israël c'est la terre des sept peuplades. Les sept peuplades correspondent aux sept midot. Ça veut dire que quand on va avec la force de Moshe Rabbeinu, on peut changer son caractère. Mais Yehoshua c'est pas Moshe Rabbeinu. Quand on est avec la force de Yeshua, on peut pas rentrer, on peut pas changer le caractère. On peut que apprendre à travailler avec. Je vais donner un exemple concret. Imaginez une personne, par exemple, qui est coléreux. Est-ce qu'il peut décider d'arrêter d'être coléreux?
Non.
Impossible. Une personne qui est nerveuse, une personne qui a un défaut.
On peut pas changer.
C'est quoi, se travailler de quoi?
Contrôler.
De ne pas être coléreux?
Travailler avec sa colère.
De ne pas être coléreux, non.
Travailler avec sa colère.
Non, mais attendez, justement.
Savoir y faire avec.
Il peut simplement travailler à savoir faire avec. Ça veut dire quoi? Travailler, que même quand il se met en colère, de ne pas en parler, de ne pas y penser, ou de ne rien faire, de ne pas décoller de droite.
Ce que disent les psychanalystes aussi. Le but, c'est de savoir y faire avec son symptôme.
Mais est-ce qu'on peut changer son caractère?
Non.
Il n'y a que le tzaddik qui peut faire ça. Le tzaddik qui peut changer son caractère. Le tzaddik qui peut passer instantanément de hyper calme à hyper nerveux. Moi, je ne peux pas le faire. Je peux décider de ne pas exprimer ma colère. C'est ce qu'il explique ici. Ça veut dire, il dit finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un juif? Les gens, ils disent, mais attends, tu comprends, faire la Torah Mitzvot, c'est très compliqué, jamais j'y arriverai. On lui dit, on t'a pas demandé de changer. On t'a pas demandé de changer de ce que tu es. D'accord?
C'est quelle page?
C'est la page 308.
Oui, ah, Razak, je vais voir.
Voilà.
T'as avais dit?
Ah, c'est un grand jour, c'est un signe, ça.
Je sais pas pourquoi, c'est une Ferrari?
C'est
oui. Ah, d'accord.
C'est une Ferrari 308.
D'accord. Je comprenais pas, il m'a dit, Serge, je vais être content. Bon, ah bah c'est bien, t'es bien parti alors. Allez, maintenant on décolle. Voilà. On passe à la première. Je reprends. On est en train de dire qu'une personne, et les gens ils disent des fois, j'arrive pas à faire la Torah, c'est trop compliqué. On lui dit, qui t'a demandé que, les gens ils croient que faire la Torah ça veut dire quoi hein? Ça veut dire changer son caractère. On t'a pas dit qu'il faut changer ton caractère. On t'a dit que la Torah c'est maîtriser son caractère. Et maîtriser son caractère c'est beaucoup plus facile que changer son caractère. Parce que changer son caractère, c'est pas dit qu'on peut le changer. Des maîtres, normalement, on peut pas le changer. Faut pas le changer. Ça, c'est une approche de la chassidoute. Bon, on m'a dit que Freud dit comme ça aussi, oui. Mais bon, j'ai pas besoin d'aller chercher chez Freud, moi j'ai dans la chassidoute. Il dit clairement, non mais c'est vrai, il dit clairement, il dit qu'on peut pas changer son caractère.
On peut apprendre à faire avec.
Parce que Freud, parce que c'est quand même un juif, on peut le citer, il dit que le caractère d'un homme, c'est comme un animal. Est-ce qu'un animal peut changer de nature?
Non.
Il peut pas. C'est pas possible. D'accord? Il peut pas, c'est bien. Imaginez par exemple, je sais pas moi, donnez-moi l'exemple d'un animal qui est méchant. D'accord. Est-ce qu'elle peut décider de devenir douce? Elle peut pas, pas possible. Sauf si, on avait expliqué dans le chapitre 15, si à Kadosh Baruch Hu, il lui greffe une nature de tzaddik et qu'il le change. Mais ça, c'est presque impossible.
Comme dans Isaïe. Hein.
Voilà. Ok. Donc je reprends. Ce qu'il explique ici, il dit que...
On peut passer
Ça veut dire quoi?
J'avais envie de m'énerver, je décide
Ah non. Oui, mais ça reviendra.
Donc tu fais avec.
Oui, ça veut dire. Je ne changerai pas ta nature.
Oui, mais ça veut dire, je ne peux pas décider que ça ne m'énerve plus. Je peux décider que je ne laisserai pas ma colère prendre emprise sur moi. Tu comprends? Si tu veux, la colère, c'est comme un parasite qui vient te casser les pieds. Alors ça peut être la colère, ça peut être l'orgueil, ça peut être des tas de choses. Chacun a ses défauts. D'accord? Et que chacun a ses défauts. Et personne, je vais vous donner un exemple un peu plus cru. Imaginez par exemple une personne qui est attirée par les femmes. Est-ce qu'il peut décider que dorénavant, voir une belle femme, ça ne lui fera plus rien?
Non.
Impossible. Il peut faire les pilotes qu'il veut, ça ne marchera pas. Hein?
Imaginez.
Hein?
Imaginez.
Mais on peut, mais lui, il ne peut pas.
Est-ce que c'est pas possible? Ça, c'est pas possible. Celui qui croit qu'il va essayer et qu'un jour, il se dit, un jour, je viendrai de sadique et un jour, voir une femme, ça ne me fera rien, il perd son temps. S'il est sadique, il peut y arriver. Sadique, c'est une autre ligue. Celui qui n'est pas sadique, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décider de maîtriser sa pensée, décider de maîtriser sa parole, et décider de maîtriser ses actes, par exemple. Faire attention où je mets les yeux, faire attention à ce que je regarde, ce que je regarde pas. Ça, je peux décider. Décider à quoi je pense, à quoi je pense pas. Mais décider que ça m'attire plus, je peux pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on demande à un juif? Hein, David, qu'est-ce qu'on demande à un juif, finalement? Est-ce que c'est compliqué, ce qu'on nous demande? Pourquoi c'est compliqué?
Pourquoi c'est pas facile?
Regarde. Imaginons, par exemple, quelqu'un qui est coléreux. Il a en lui la nature de colère. Très bien, on va parler de toi. Là. C'est bien. Alors, je t'ai pas visé.
Non, mais j'arrive pas.
Ah ben, voilà, je donne un exemple. Imagine-toi que tu es coléreux.
Ouais.
D'accord? Et que tu sais que, voilà, quand ça part, ça part.
Ouais.
Très bien.
Ouais.
Maintenant, on te dit qu'en vérité, est-ce que tu admets que la colère, c'est une folie? Écoute-moi bien.
Il n'a pas forcément envie de le croire.
Est-ce que tu admets que la colère, c'est une folie? La preuve, c'est que quand tu t'énerves, que tu fais des choses, après, tu les regrettes. Donc, c'est une folie. Très bien. Donc, ça veut dire que ton cerveau admet déjà qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de ton cerveau, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. On est d'accord? Parce que ton cerveau, il regrette après. Très bien. Donc déjà, c'est une folie, premièrement. Deuxièmement, non seulement que c'est une folie, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien.
Oui.
D'accord? T'as un amour caché vers un Kadosh Baruch Hu, ça veut dire dans tes gènes, tu sais au fond de toi que c'est pas bien. Dans tes gènes, au fond de toi, Dieu il t'a donné un moteur qui t'a donné la force de te retenir. Et finalement, quand je dis te retenir, on te demande pas... Attends, une seconde. On te demande pas d'arrêter d'être coléreux. Parce que c'est Dieu qui t'a créé avec cette nature.
Tu ne pourras pas.
Dieu il t'a créé avec cette nature et tu pourras jamais l'enlever.
Ouais.
Elle t'accompagnera jusqu'à la tombe.
Je peux le repousser, d'accord. Mais à un moment donné...
Non, tu peux pas la repousser. Tu peux décider de ne pas la laisser s'exprimer. Donc tu vas apprendre à composer avec. C'est un handicap.
Tu es obligé de faire un effort.
C'est-à-dire que tu es obligé de faire avec. Tu comprends?
Ah oui.
Tu comprends? Je te donne un exemple. Par exemple, t'as des grands joueurs. Ah, t'aimes le foot, non?
Oui.
Bon, chaque joueur, il a ses défauts.
Oui.
À quoi il sert l'entraîneur? À quoi il sert l'entraîneur? L'entraîneur, il sert à montrer aux joueurs, lui dit, écoute, ça t'as un défaut.
Voilà.
Tu peux rien faire, tes petites tailles, tes grandes tailles, voilà, t'as un défaut. Chacun a ses défauts. Donc on lui dit, écoute, si t'as un défaut, arrange-toi pour que ton jeu ne tombe pas autour de ce défaut.
Ouais.
On va pas te l'enlever, ce défaut. Ce défaut, il t'accompagnera jusqu'à la tombe.
Ouais.
Mais quand t'es un bon joueur avec un bon entraîneur, on te dit, écoute, arrange-toi pour que dans ton jeu, il n'y a pas ce défaut. Donc par exemple, s'il est petit, je sais pas, c'est des têtes qu'il faut éviter quand on est petit? Qu'il faut éviter quand on est petit. Exemple, hein, je sais pas. On est d'accord?
J'ai une question.
Alors, j'explique, je termine avec l'exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on lui demande pas de changer son caractère. D'abord, s'énerver, c'est une folie. En plus, au fond de lui, il a le moteur pour se retenir. En plus, on lui demande même pas de changer de caractère, on te demande juste de te retenir. C'est-à-dire d'empêcher de l'exprimer. Ça veut dire, tu veux dire un mot, tu fermes ta bouche.
Mais retenir on peut, mais plus tard ça va péter.
Ça veut dire comme ça, par exemple, dans ma tête je pense celui-là c'est un imbécile, on t'a pas dit d'arrêter de penser que c'est un imbécile. On t'a pas dit qu'au fond de toi tu penses pas ça. On t'a dit ne lui dis pas. Tais-toi. Je peux fermer ma bouche. Je peux fermer. Je peux le faire, non? Je peux arrêter d'y penser. Je peux penser à un Vartorol et penser à ça. Très bien. Je peux me retenir de décoller une droite. Donc j'ai gagné.
C'est le travail de maîtrise.
Travail de maîtrise. Donc du coup, quand des fois, par exemple, j'ai un truc qui se passe, qui me fait hérisser le cheveu, j'ai envie de... Je sens que,
je sens que
je pars. D'accord ? Il faut que je me retienne. Je ne laisse pas l'exprimer.
Je pense à autre chose
et... Exactement. Je ne laisse pas l'exprimer. Je le bloque, je le dévie.
Ouais, exactement.
Je le dévie. Il ne faut pas chercher... Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il a expliqué dans le Tania, il avait expliqué ça très très longuement. Ça fait un an qu'on avait étudié ça. Il ne faut pas chercher à se battre avec un caractère. Et les gens, ils se battent avec, ils disent, non, mais je vais me retenir, je vais montrer que je suis pas nerveux, en vérité, je suis pas nerveux. Mais non, je te dis, en vérité, je fais ça parce que c'est la vérité, j'ai raison, etc. Il veut s'expliquer qu'il a pas de défaut. On te dit, arrête de te battre avec ton défaut. Ignore-le et apprends à composer avec. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'Amad Torah, il avance. Et ça, c'est la Torah. Quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas si difficile que ça en a l'air. On te demande pas de changer le monde. On te demande de te retenir de pas raconter de bêtises.
Ça vaut le coup en plus.
D'accord.
La récompense est très
importante. Ah, bien sûr. Ah oui. C'est l'écran. Ah oui, tu sais qu'en plus, une personne qui
ma vie.
Une personne qui a envie de s'énerver et qui se retient, il gagne l'Éden.
Ouais.
Oh. Sérieux?
Ah, sérieux.
C'est sérieux?
Ma vie, rien de loi, quoi le péché.
Ah, c'est extraordinaire. Dieu dit, toi, t'as laissé passer ta colère, moi, je te laisse passer les fautes. Bah, dis-moi, t'imagines.
La colère ou quelque chose. Hein.
Non, c'est ma vie remise de taf. Ouais. C'est... Quand une personne laisse passer. Alors, t'avais une question, pardon.
Oui, Rav, mais moi j'avais entendu un cours, c'était quoi? C'est quoi dans la Torah, genre on dit le lachon de la Torah pour les. Il n'y a pas de défaut ouais, il n'y a pas de défaut, on dit les midot. On ne dit pas à quelqu'un il a des bonnes aptitudes et des défauts.
Midot, c'est un caractère.
Ouais, mais vous dites c'est une folie, mais.
Non, quelqu'un qui ça peut être une folie aussi.
Mais quelqu'un qui s'énerve.
Je te donne un exemple. C'est quoi l'énervement? D'où vient l'énervement?
Bah, quelque chose qu'on accepte pas.
C'est une personne qui a un tempérament chaud.
Ouais.
Avoir un tempérament chaud, c'est bien ou c'est pas bien?
Bah, ça peut être bien.
Ça peut être très bien. Ouais. Ça peut être excellent, un tempérament chaud.
Bah oui.
D'accord. Une personne qui a un tempérament chaud, c'est une personne qui a une grande force de travail, qui a beaucoup d'entrain, qui a beaucoup de passion, c'est bien. Une personne qui est froid, il est froid. Ouais. Mais d'un autre côté, il s'énerve plus rapidement.
Ouais.
Donc, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Mais quand ça s'exprime dans une colère qui est nerveuse, c'est pas bon.
En fait, c'est ça, il faut savoir placer.
Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir quand je la laisse s'exprimer, quand je ne la laisse pas s'exprimer. Mais je ne la change pas, je ne l'enlèverai pas.
Ouais.
Ça, je peux bien comprendre. Et donc, ça nous aide à comprendre qu'en vérité, Kikarov et Lecha. D'accord ? Serge, ça ne te dérange pas. Je ne change pas dans la pièce, là. Il y a une télécommande de clim. Si tu peux juste appuyer sur le bouton pour l'allumer. Derrière, là, tu le vois ? Attends, dans l'autre poteau.
Ah oui, d'accord.
Tu le vois ?
Il y a un
bouton principal.
Il y a des quoi de numéro.
C'est bon? Est-ce que le bouton rouge est allumé?
Non.
Non? Ah, regarde, sinon. Vous avez chaud, il fait un peu chaud, non?
Non,
ça va?
Sans ça, là.
Yves, il a chaud, non?
Non.
Ah, vous n'avez pas chaud? Bon, c'est bon alors. Voilà. Hein?
C'est
ok, laissez.
Okay.
Okay. Ah, bah si vous n'avez pas chaud, c'est bon,
on
va
mettre le chauffage.
Ok. Alors, donc on continue, d'accord? On continue maintenant donc, dans le développement qu'on a expliqué. Là, en vérité, si vous voulez, il fait un condensé de toutes les notions qu'on a expliquées jusqu'à maintenant. Donc, on a expliqué d'abord, c'est quelque chose qui est inné en moi. C'est pas quelque chose que je dois innover. En plus, on te demande pas, comme on a expliqué, de changer ton caractère, on te demande juste de te retenir. D'accord? Deuxièmement. Troisièmement, on va expliquer. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 18 aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que chaque juif, au fond de lui, il a tellement peur de se séparer d'Akadosh Baruch Hu, que quand on lui dit, convertis-toi, va à l'église pour te convertir, on va te tuer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire?
On se réveille.
On va tuer.
Il va se réveiller, il va se laisser tuer. Qu'est-ce qui est plus dur? Qu'est-ce qui est plus dur, d'après vous? Se retenir de faire Avodah Zara ou se retenir de ne pas s'énerver?
Se retenir de faire.
Bah, évidemment, se retenir de faire Avodah Zara, c'est beaucoup plus dur parce que là, je sais que je vais laisser ma vie. Alors, se retenir de m'énerver, bon, la vérité, c'est que je peux me retenir, mais bon, j'ai pas envie de me retenir. Ce que j'ai envie de lui dire, il m'a énervé, je vais lui dire, je vais rentrer dedans. Alors, à la limite, j'ai envie de le faire. C'est un plaisir. N'est-ce pas? La colère, ça peut être un plaisir des fois? Non, jamais?
C'est
un moment. C'est un moment, ça dépasse.
Ah ouais.
Tac, ça décolle. Mais est-ce qu'il y a un moment dans lequel tu sens que tu peux maîtriser?
Oui, bien sûr, je peux.
À quel moment?
Après s'être énervé.
Non.
On fait une thérapie de groupe.
Je pense que je vais mettre en colère, c'est pas Avodah Zara, donc j'arrive à me...
Oui, mais à quel moment t'arrives à retenir?
Pas conscience.
Au début.
Oui, au début.
Au début, tout de suite.
C'est pas quand j'ai explosé que c'est fini.
C'est là qu'il faut arrêter.
C'est parti, c'est parti.
Une fois que c'est parti, c'est parti.
Ah oui.
Et je vais vous donner une technique. Une technique que je vais vous donner qui est expliquée ailleurs dans l'Admor HaZaken explique. Il dit, même si une fois ça vous arrive de vous énerver et que vous, bon, vous êtes parti, arrêtez de parler. La parole, c'est comme de l'huile sur le feu.
Ah oui,
bah oui,
c'est clair.
Tu arrêtes de parler. Tu te tais.
C'est comme t'es avec madame, si, on, ça, si ça explose.
On te tire des balles, tu te tais. Et tout de suite.
Oui. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Voilà.
Plus t'arrêtes de parler, mieux
c'est. Ça sert à rien parce que toutes les façons, c'est pas des arguments qui vont donner raison.
Tu parles et puis ça reste explose.
Ok, on continue. Donc il dit, si déjà une personne est capable de se retenir, de faire avoda zara, et que pour ça il est prêt à laisser sa vie, à plus forte raison que se retenir, de faire un petit lachonara, se retenir, d'avoir une petite colère, c'est sûr que je peux me retenir. Seulement, pourquoi je me retiens pas? Parce que là, avoda zara, ça m'a l'air grave, alors que la colère, ça m'a l'air pas grave. Alors qu'en vérité, ça c'est une folie que le tsar met dans la tête, qui me dit, ça c'est important, c'est pas important.
C'est la même chose.
Non, en vérité, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc dans les mots, le chol sheken du shvirat ataavot. J'accélère un peu parce qu'on a expliqué tout ça. Akalam isuremita, l'irbosh ayetzer, de contenir son yetzerara. En biprinat sourmera, afilu ma'avera kalash et divres sofrim shelo l'avoir retourné de barer. Des fois, c'est une petite avera. Une avera qui t'a l'air toute petite. Tu dis, mais ça va, c'est une avera toute petite. Je me laisse aller. Je plonge. Mais en vérité, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Est-ce que ça change quelque chose si c'est une petite avera ou une grande avera? Dans les deux cas, j'en ferai la volonté de Dieu. Donc finalement, je me suis fait avoir tout seul. Je vous raconter une anecdote. Une fois, il y a un rabbi, c'est le rabbi de Kotz qui a dit comme ça. Il a dit, quand j'étais jeune, je croyais que j'étais plus intelligent que le monde entier. Après, j'ai grandi un peu. Je me suis dit, je suis plus intelligent que mon pays. C'est moi le plus intelligent de mon pays. Après, il a dit, quand j'ai grandi encore un peu, j'ai compris que si déjà j'arrive à maîtriser, être plus intelligent sur ma ville, c'est déjà pas mal. Et comme ça, il raconte progressivement. Après ma rue, après etc. Après, il a dit ma famille. Je croyais que je maîtrise ma famille. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand j'étais déjà vieux, il a dit, je suis arrivé à la conclusion qu'en vérité, même moi-même, j'arrive pas à maîtriser. Et je me trompe à moi-même. Alors il a dit, où est l'intelligence d'arnaquer un imbécile? Parlant de lui-même. C'est-à-dire que des fois, tu vois, on va se justifier. C'est une grande intelligence. Des fois, on va se justifier. Tu vas dire, non, mais j'ai fait ci, parce que ci, parce que ci, parce que ci, parce que ça. Et bon, à la limite, tu sais quoi? Tu peux convaincre le monde entier. Vas-y, convainc tes amis, convainc tes collègues, convainc ta femme, convainc tes enfants, convainc ton père, convainc ta mère, convainc tout le monde. Convainc ta grand-mère, convainc tout le monde. Après un moment, finalement, qui c'est que tu arnaques? T'arnaques tout seul. Arnaquer un imbécile, c'est une rochma. À la fin, tu dis, mais finalement, je vais arnaquer qui ici? Je vais arnaquer tout seul. Je raconte des bêtises. C'est ce que tu dis ici. Il te dit, qu'est-ce que t'es en train de faire? À quoi tu joues? Tu dis, ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout est grave, t'es en train d'inventer la Kadosh Baruch Hu. Tu t'es séparé de la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est évident que si on réfléchit comme ça, une personne qui réfléchit comme ça et qui ne se fait pas avoir par le Yitzhara, là on peut dire que la Torah, les mitzvot de la Torah sont karov. Karov en hébreu ça veut dire accessible. Faisable. Ça c'est fait, oui c'est vrai, c'est faisable. Maintenant qu'on le fait, je sais pas si on le fait, mais c'est faisable. C'est très important. Je vous donne un exemple. Pour expliquer, le rabbin, il fallait expliquer la différence. Il a dit, quelle est la différence entre un Baal Teshuvah qui commence à apprendre les mitzvot et qui fait une mitzvah sur les 613? Et d'un autre côté, un juif libéral qui va dire, sur les 613 mitzvot, il n'y en a que 100. Le reste, on ne les prend pas. Pourquoi un, il est bon, l'autre, il n'est pas bon? Vous savez quoi la différence? La différence est très simple. C'est que pour le juif libéral, il y a 100 qui sont faisables, le reste ne sont pas faisables. On les a annulés. Le juif qui est Baal Teshuvah, peut-être qu'il fait une mitzvah maintenant. Mais jamais il va te dire les autres n'existent pas. Jamais il va te dire les autres c'est impossible. Il va dire je suis pas encore en état de les faire. C'est comme un enfant. Donc il dit bon, je vais y arriver. Au fur et à mesure. Il les fait pas encore, mais ils sont faisables. Dans sa tête il dit, ok, je les fais pas encore, mais c'est quelque chose que, c'est un but. Ça c'est toute la différence.
Il accepte le programme,
et il accepte que c'est faisable. Contrairement au libéral qui te dit ça c'est pas faisable, il te dit ça c'est has-been, c'est démodé. C'est la différence. Tout est là. Tout est dans l'approche, tout est dans la tête. Est-ce que dans ma tête c'est faisable ou pas faisable? Ça veut dire d'après l'Admor HaZaken, si on pouvait résumer en un mot, si j'arrive à me convaincre qu'une mitzvah est faisable, j'ai déjà tout gagné. Arriver à se convaincre que je peux le faire. Je peux le faire. Et que je peux réussir. Dès que tu as réussi à te convaincre ça, tu peux réussir. Je sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Ils ont fait, je sais pas si vous l'avez raconté. tous les, juste, je raconte cette anecdote. Il raconte que tous les présidents des États-Unis, enfin, ils ont raconté, à mon avis, c'est valable pour la France aussi, mais ça a été raconté par le président des États-Unis. Tous les présidents des États-Unis, quand ils étaient jeunes, Barack Obama, tous inclus, hein, quand ils étaient jeunes, ils ont écrit sur un papier, en tout cas, ils se sont écrits eux-mêmes, un jour, je serai président de la République. Non. Ouais. Ils l'ont écrit. Ouais. Tu peux pas atteindre un but que dans ta tête, tu penses qu'il n'est pas faisable.
C'est pas une surprise.
Y a pas de chance, y a pas de loto. Tu peux pas devenir milliardaire comme ça. Ceux qui sont devenus milliardaires, ceux qui ont changé le monde, ceux qui, vous savez, des fois tu lis dans les magazines des histoires, une personne qui vient de nulle part, un paysan, fils de paysan, il est devenu, il a ouvert une start-up, etc. Pourquoi vous croyez qu'il est devenu comme ça? Parce qu'un jour il s'est levé et comme ça, parce que dans sa tête il rêvait d'être millionnaire.
Il a dit 25 fois Hollande.
D'accord? Moi, président de la République,
moi,
hein.
Moi,
ah ouais? Ben, il était convaincu en tout cas, il l'a eu. Non, mais, est-ce que vous avez remarqué? C'est bien que tu le remarques, parce que, voilà, la vérité, quand il a dit ça dans l'interview, les analystes qui ont vu le débat, ils ont dit à ce moment-là, c'est là qu'il avait gagné les élections.
Bien sûr, c'est le moment crucial.
Mais ils l'ont dit ça, ils ont dit à ce moment-là, le moi président de la République, c'est là qu'il a gagné les élections.
Exactement.
Parce qu'il parlait comme un président. Il était déjà président. Dans sa tête, il était président. Quand c'est un but que tu as dans la tête, tu peux l'avoir. C'est ça le Kikarov. On va revenir maintenant à la Torah. Kikarov et Lecha. C'est de quoi Kikarov et Lecha? Pourquoi je vous en parle? Parce que quand j'étais une fois à New York. Là-bas, j'étais une fois à New York pour la convention annuelle des Shluchim, du Rabbi. Et là-bas, il y avait un coach. Moi, il y a plein de sessions. Et dans une des sessions, il y a un coach qui nous a parlé. Intéressant. Ce coach-là, c'est une personne qui a coaché des présidents, etc. Quelqu'un de très très important. Mais c'est un juif et c'est un ami de Chabad, donc il est venu. C'est quelqu'un que, pour l'inviter normalement, il faut payer des millions. Et il vient pas comme ça. Et il est venu. Attendez, c'est un plaisir pour lui de venir. Et je me rappelle, voilà, lui nous avait dit ça. Il nous avait dit, si vous voulez avancer dans la vie, il faut vous marquer les objectifs. Et n'ayez pas peur des grands objectifs. Parce qu'on ne peut atteindre que les objectifs qu'on a imaginés. Donc finalement, on se bride tout seul. Quand je me bride, je me dis, je peux faire que le 100 mètres, ben tu feras que le 100 mètres. Si je me dis, je peux faire 1000 km, ben je les ferai les 1000 km. Tout est dans la tête. Tu l'auras la 308.
408, non, c'est juste
la dernière,
c'est la
480. Je sais pas, genre, désolé. Je sais pas, c'est entre les uns. Il faut être... Bon.
Il faut être initié.
Ah, je crois que c'est une Peugeot, moi.
Il faut être dans la Scuderia. Alors.
Regarde-moi comment tu casses les choses.
Non, pour nous, c'est de la ferraille, tout ça.
Là, voilà. C'est de la ferraille.
Mandy,
oui.
Juste une remarque. Tu as dit tout à l'heure que dès lors que une personne va prendre conscience qu'il peut faire une mitzvah,
oui. Qui peut le faire.
Qui peut le faire et qui va la faire. Alors, le problème, c'est dès lors qu'il a fait une fois, il est validé en tant que tel, ou il faut que cette mitzvah-là, elle soit répétée.
Alors, bonne question.
Ou pas, ou alors, est-ce qu'il doit passer à une autre?
Avant même qu'il le fasse. Vous entendez la question?
Parce que...
Avant même qu'il le fasse, tout est dans la tête. Rappelez-vous du Yes Weekend. Vous vous rappelez du Yes Weekend? C'est quoi ce Yes Weekend?
Maintenant que j'ai greffé, je peux passer au
chose. C'est énorme. C'est quoi ce Yes Weekend? C'est quoi Yes Weekend?
C'est yes.
Oui, on peut. Ça veut dire qu'il a mis dans la tête des gens, oui, c'est possible d'avoir un président noir. Oui, c'est possible. Il l'a remis dans la tête. Et c'est rentré.
La prochaine étape, c'est d'accord. Président femme. Hein.
C'est vrai. Oui.
Les deux, ils sont...
Bah, Fry et Sukel aussi. C'est intéressant comme approche. Là, je me rappelle, il avait beaucoup insisté. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'US Weekend, parce que ce coach qui nous avait parlé, c'était un peu après les élections, et il avait beaucoup parlé du US Weekend. Il y a beaucoup parlé de cette notion-là, que quand on, à force de mettre quelque chose dans la tête, on finit par l'obtenir. Et parce qu'on a en nous des forces extraordinaires. Et ça me rappelle, je me rappelle qu'il y avait là-bas un Schlier qui avait parlé, hein, suite à ce coach, qui avait dit que sans vérité, c'est une idée qu'on a entendue très souvent du Rabbi. Le Rabbi disait, on n'a pas idée du potentiel qu'il y a chez un juif. On n'a pas idée. Comme un juif seul, à lui seul, il peut changer le monde.
Les juifs,
à plus forte raison, un juif. On n'a pas idée le potentiel d'un juif. Comment il peut changer le monde. Mais on se bride dans notre galoute personnelle. On se met en exil tout seul. On dit non, ça je peux pas, pas pour moi. Moi je me contente de ça. Il faut viser grand, il faut viser très large. C'est ce qu'il dit ici. Kikarov et Lecha. On revient en mitzvot maintenant. Kikarov et Lecha, ça veut dire que c'est accessible, c'est faisable. Personne ne doit dire que c'est pas faisable. C'est faisable, on va travailler, on y arrivera. D'accord. Qu'il dit ici. Avec des questions.
Donc, voilà, on passe à une autre ou on continue celle-là?
Laquelle?
j'ai réussi à faire une mitzvah. J'essaie de la faire de mieux en mieux pour l'affiner.
Pourquoi pas?
Ou je passe à une autre après pour...
On n'est pas... Je comprends votre question. On n'est pas dans la question de l'action ici. Est-ce que je fais ou je fais pas? On est dans la question que je dois me persuader intérieurement que je peux le faire.
Ouais, mais après, il faut passer à l'acte.
Mais une fois que je suis persuadé que je peux le faire, je vais y réussir. Imaginez par exemple un commercial, une petite société, et il est devant un immeuble avec une mastodonte. Quelqu'un, une société très puissante. Il a honte de rentrer. Il dit, mais attends, moi, je suis une société bidon, qu'est-ce que je vais rentrer? Une fois qu'il s'est convaincu qu'il peut rentrer, c'est fini, il va y aller, il va réussir. Le travail le plus difficile, c'est se convaincre tout seul. Avant de convaincre les autres, il faut se convaincre tout seul. Une fois que tu es convaincu tout seul, tu convaincs les autres. Sinon, tu convaincs avec des, si tu convaincs avec des scripts tout prêts, tu dis, voilà, mon produit fait ci, il fait ça. Non, ton produit fait ça. Il y a un autre produit qui fait ça aussi.
Il faut dépasser la technique.
Il faut quitter la technique. Il faut se convaincre tout seul. Il faut se convaincre moi-même que ce que je vends, c'est le top. Pareil pour la Torah. Je dois me convaincre que être un juif religieux, chômer Torah ou mitzvot, c'est possible. Je peux l'être. Je peux être un juif chômer Torah ou mitzvot. Je peux faire le Shabbat. Je peux faire les mitzvot. C'est pas pour les rabbins. Je peux rêver d'un jour ouvrir une page de Gemara et me débrouiller tout seul. Si vous rêvez de ça, vous y arriverez. Je peux comprendre le cours de Tania. Si tu y rêves, tu y arriveras. Si dans ta tête, dès le départ, tu dis, je viens à un cours, c'est juste pour être quitte, parce que je dois être quitte, et parce qu'on m'a pris la tête, et parce que bon, quand même, il faut venir, parce que je sais pas, j'ai envie d'avoir un galet d'âne, je sais pas quoi, bah tu comprendras rien. Tu resteras bête toute ta vie. Et on t'en voudra pas, t'inquiète pas. Il y a plein de bêtes dans le monde.
On peut pouvoir, mais pas vouloir.
On peut pouvoir, exactement. Au fond de nous, chaque juif peut.
On peut ne pas vouloir.
Mais il veut pas. Il veut pas, pourquoi il veut pas? Parce qu'il réalise pas qu'il peut.
Parce qu'il ne croit pas.
Parce qu'on n'arrive pas.
Non, il veut pas.
Il ne croit pas qu'il peut. Il réalise pas qu'il peut.
Il peut toujours réussir. Il n'y a pas un homme sur Terre qui ne veut pas réussir. Non, non, ça n'existe pas.
Parce que tu dis être juif religieux.
Parce
que tu
dis parce qu'il n'y croit pas.
Il va réussir.
Pouvoir se donner.
Ben oui, non.
Non.
Réussir.
Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de du Rav Slavatitsky. Le Rav Slavatitsky, le Schler d'Anvers, je ne sais pas si je vous racontez cette histoire. Il a raconté qu'une fois, il était à New York, chez le Rabbi. Ce Shabbat, c'est le lieu du Rabbi. Une fois, il était à New York, chez le Rabbi, et il attendait la queue pour recevoir le Kosh El Bracha du Rabbi. Vous savez, le Rabbi, à l'issue de chaque fête, il prenait de son verre de vin, et il distribuait, donc on reversait plusieurs fois, et il distribuait à chacun un peu de vin de Bracha. Et avec ce vin-là, les Chassidim, ils faisaient leur kiddush avec, etc. Donc il mélangeait un peu de vin. Et donc c'était quelque chose qui durait des heures et des heures et des heures. Et le Rav Savatsky raconte, il dit, j'étais derrière un juif, parlait italien, avec son, enfin un Rav qui était à côté de lui, il parle en italien. Bon, un juif qui a pas l'air de quelqu'un de religieux, quoi, avec la totale, quoi. Bon, la boucle d'oreille et tout, quelqu'un qui fondait pas dans le décor, quoi. Et il raconte, il dit, cette personne-là, je vois, il parle, et il arrive devant le Rabbi, commence à parler au Rabbi. Normalement, on n'a pas le temps de parler, mais là, il commence à parler. Le rabbi lui dit une phrase à son oreille, et le bonhomme, il entend cette phrase, et après il est comme un fou dans le 770, il prend son truc, et il passe, il fait les 400 pas. Il dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Et comme ça pendant 10 minutes. Alors, le rabbi Savatisky, bon, la vérité, ça ne le concernait pas, mais il ne faut pas se retenir. Il regardait, il dit oui, non, oui, non. Alors, quand il a vu que le bonhomme, il était comme ça, il était vraiment perturbé. Il a dit, excusez-moi, il commence à lui parler, je crois, en anglais, il commence à lui parler, il dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider, etc. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, je vous expliquer. Il lui dit, je fréquente une Goya. Et je compte me marier avec elle. Je comptais me marier avec elle. Et je suis parti voir beaucoup de rabbanim. Je suis parti voir des rabbanim, et les rabbanim, ils m'ont dit, alors, c'est quoi la démarche en général? Ils m'ont dit, oui, c'est très grave. Et tu vas casser la chaîne du Yom Israël, le gay est un homme, et tu n'auras pas un mariage heureux, et c'est très grave, et c'est très grave. Et j'ai entendu tout ce qu'ils m'ont dit, mais je l'aime. Et l'amour que j'ai envers elle est plus fort que tout ça. Bon, tant pis, j'irai en enfer. Qu'est-ce qu'on fait pas pour l'amour d'une femme? Comme ça, il disait. Il dit, quand je suis arrivé chez le rabbi, je m'attendais encore une fois, on m'a dit, viens chez le rabbi. Je
m'attendais, il est allé voir le rabbi.
Je m'attendais, ah voilà, parce qu'il était dérangé au fond de lui. Ça n'est jamais le dérange.
C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait des réponses qu'il avait reçues.
Ça veut dire que...
Il prend l'avion, il va à New York. Attention, la démarche d'un monsieur comme ça, c'est qu'il essaie de trouver quelqu'un qui lui autorise.
Voilà. Ou qui lui autorise, non.
C'est pour la conscience.
Ou qui le perturbe.
Ça veut dire qu'il veut comprendre, il veut trouver la raison pourquoi on ne peut pas le faire et pourquoi peut-être il va le faire.
C'est pas un idiot.
Et donc, il raconte, il dit, il arrive devant le rabbi. Le rabbi lui a dit une phrase dans l'oreille. Il a dit, je vous envie de l'épreuve que vous avez. J'ai jamais eu une épreuve comme vous avez. Et si Dieu vous a donné cette épreuve, ça veut dire que vous pouvez la surmonter.
Ouais, ça suffit.
Ah oui, direct. Il s'est arrêté là.
C'est nickel. C'est propre. Sans
bavure. Le bonhomme, il a entendu ça.
Devenu fou.
Il est devenu fou. Il dit, mais attends, tu t'imagines?
Je suis parti avec moi.
Bonsoir. Il dit, mais tu t'imagines? Le rabbi qui me sort ça. Qui me dit qu'il a jamais eu une épreuve comme ça. Presque sous-entendu que lui, si ça lui était arrivé, il aurait pas pu la surmonter. Ça, ça veut dire. Et que moi, comme j'ai une épreuve comme ça, c'est-à-dire d'un côté, je sais que c'est grave, et d'un autre côté, je l'aime. C'est une épreuve, c'est très dur. Comme Dieu, il m'a envoyé une épreuve tellement forte, il m'a envoyé aussi les forces qu'il faut pour la surmonter. Il a entendu ça, et c'est ça ce qu'il a aidé à faire teshuva. Aujourd'hui, les enfants de ce monsieur étaient avec moi à la yeshiva. Ils sont tous shluchim du rabbi.
C'est beau. Avec des boucles d'oreilles?
Des italiens. Non, bah, sans boucles d'oreilles. C'était avec moi à la yeshiva à New York.
Les cheveux longs. Excellent.
Non, mais c'est quand même...
Ça veut dire quoi? Quelle était la démarche du rabbi? Alors bon, je dis pas que c'était toujours la démarche du rabbi, mais quelle a été dans ce cas-là la démarche du rabbi? La démarche du rabbi, ça a été de lui dire à la personne, je vais pas faire le boulot à ta place. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que tu as en toi la force de surmonter. Ne va pas chercher la force chez les tzadikim. Moi, je vais t'aider simplement à trouver la force que tu as en toi. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve très souvent dans la Chassidout Rabbad. Et là, je reviens à l'idée du début du cours, avec l'exemple. Il y a des gens, ils pensent, ils vont aller dans un endroit, ils vont lire un tikkun, etc. C'est vrai que c'est très beau, c'est magnifique. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que je laisse le rabbi faire le boulot à ma place. Ça, c'est complètement contraire de l'approche rabbade. Dans l'approche rabbade, on te dit, jamais un rabbi fera le boulot à ta place. Jamais. Ce qu'il fera, le rabbi, il va t'aider à trouver les forces en toi. Ça, il va t'aider. Mais jamais il fera le boulot à ta place. Jamais tu dis, viens, je te prends, je te tire par les péotes. Ça n'existe pas, ça.
Quand c'est hein? Le rabbi avait vu dans cette personne.
Non, on a compris. Voilà. Ça se précise.
Non, alors, le rabbi... Non, attention, j'ai des amis Breslev, Ras Vechalom. Ils sont extraordinaires. Il n'y a pas que les Breslev. Mais il faut savoir que la majorité des chassidoutes sont comme ça. Vous parlez de Breslev, mais il y a tous la majorité des chassidoutes, Gour, etc. L'approche est, c'est que le rabbi fait le boulot. Nous, juste, on s'accroche sur le pan du rabbi et le rabbi nous fait décoller. La Gmoura Zaken, quand il a fondé la Chassidout Rabbad, la Gmoura Zaken, c'est l'auteur de ce livre, il a dit, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je fais pas le boulot à la place des gens. Il dit, les gens, ils doivent faire le boulot eux-mêmes. On va leur donner des outils pour travailler, on va leur montrer qu'ils ont en eux la force, ça c'est notre travail, c'est le rôle d'un rave, d'expliquer à la personne qui l'a sans lui, mais on fera jamais le boulot à sa place. C'est comme, vous savez sinon à quoi ça ressemble? C'est comme si le gosse, il vient avec les devoirs, et tu lui fais les devoirs à sa place. Non. S'il vient te voir et tu vois qu'il est perdu, tu vas lui montrer qu'il connaissait déjà la réponse. Tu vas dire, regarde, viens prendre point par point. Vas-y, fais 1 plus 1, fais ça plus ça, fais ça plus ça. Tu vois, tu es arrivé tout seul. Ça, c'est le top. Quand tu arrives à faire ça, mais ça prend du temps, ça. Et d'ailleurs, on n'a pas la patience de le faire. Je sais pas si vous avez, enfin, toute personne qui a déjà fait les devoirs avec les enfants. Et c'est que, des fois, on peut lui expliquer, mais on n'a pas la patience. Parce que, on peut faire rapidement l'exercice et on le fait en 2 minutes. Mais si je dois lui expliquer comment il aurait pu trouver, ça me prend une demi-heure. Et j'ai pas cette demi-heure, j'ai pas envie de passer une demi-heure maintenant. Mais quand t'as passé cette demi-heure, enfin, il a compris. Le chemin court et long, c'est quand je lui fais les devoirs. Le chemin long et court, c'est quand je lui fais faire les devoirs. Faire, faire.
Dans cette histoire que tu as apportée du rabbi, le rabbi avait vu dans cette personne qu'il avait le potentiel.
Oui.
Il l'a vu.
Ça n'existe pas une personne qui a une épreuve qui n'a pas le potentiel correspondant.
Quelqu'un qui se met dans la mer, s'enfonce au plus profond de la
mer,
il peut ne plus arriver à s'en sortir parce que c'est lui qui s'est...
Alors, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, il faut... Dans ce cas-là, il lui faut un tzaddik qui va lui montrer qu'il peut sortir de la boue. Il a en lui la force.
Pas l'aider, non.
Non.
Des fois, tu peux t'arrives à un niveau où t'as même toi, t'as plus la force de t'en sortir. Comme
Paro, oui.
Quand il a fait.
D'accord. Bon.
Il a plus la force d'en sortir. Et t'as besoin du tzaddik qui va.
Parce qu'il s'est jeté.
Te donner la main pour te.
Il s'est jeté dans la verrotte.
Voilà, oui.
Et lui, c'était bah,
ce. Mais là, ce bonhomme-là, c'était pas le cas. Ce bonhomme-là, c'était pas un juif religieux.
Oui, mais.
C'est un juif qui a recruté une goya, qui est tombé amoureux. C'est pas un juif que le khatrila, il a fait la yeshiva, un jour, il a dit, tiens, je vais aller voir les goyotes. Tu comprends? C'est pas la même démarche. Là, c'est un juif que, il a fréquenté une goya, il a fréquenté après un rav, un shliach, qui lui a dit, il faut faire teshuva. Il a fait teshuva, et entre temps, il y a la goya. Donc, d'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a la goya. Qu'est-ce que tu fais?
Ok. Lui, il a le potentiel.
Mais... D'un côté, il y a le rabbin, d'un côté, il y a Christine. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, ça veut dire que c'est une idée
générale. De Christine, hein.
Ça veut dire que c'est une idée générale. Quand Akadosh Baruch Hu, il t'envoie une épreuve, automatiquement,
c'est sûr.
Ça veut dire que tu as la possibilité.
En Akadosh Baruch Hu, ba bitrunia imbriotav. Akadosh Baruch Hu ne donne jamais à une personne une épreuve qu'il n'est pas en état de supporter. Jamais.
Sans avoir une épreuve, il a dit.
Jamais. Ça n'existe pas. Après, pourquoi certains sont approuvés, d'autres ne le sont pas, c'est une autre question. Pas la question.
Sauf dans le cas où tu t'habilles toi-même dans l'épreuve.
Oui, d'accord, je suis sûr. Mais normalement, quand une personne reçoit une épreuve, c'est que Dieu lui a donné la force de surmonter.
Que Dieu nous en préserve. Quand même.
Dieu nous en préserve, bien sûr, nous en préserve. Ah ouais. D'accord. Alors, on va continuer maintenant. Donc, il dit, qu'est-ce qui se passe? En vérité, cette personne-là, on se fait tout savoir par le Yitzhara. Comment on se fait par le Yitzhara? Le Yitzhara, il nous dit, oui, écoute, tu comprends. Et Daverot, c'est pas grave. Écoute, de toutes les façons, tu restes religieux. C'est pas grave, tu fais un petit lachanara par-ci, t'as regardé un peu par-ci, un peu par-là. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, t'es un bon juif. Donc le Yitzhara me raconte des bêtises. Et moi, je plonge. Mais en vérité, si je réfléchissais réellement au fond de moi, jamais j'aurais fait des erreurs comme ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence entre une avéra et une autre? Dans toute l'avéra, tu te sépares de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu sais quoi? On va, il dit ici, peut-être, une personne va se dire comme ça. Un autre piège du Yitzhara. Le Yitzhara, il dit, écoute, c'est pas grave, tu vas fauter, mais après tu reviendras. Grand classique aussi. On va aller en vacances, on va faire un peu des choses, par-ci par-là. Après, il y aura les Sterot, le mois des Louls, tout ça. Bon, pas un problème. On s'arrange, on gère. Débit, crédit, tu vois. Hein? Débit, crédit.
C'est bien placé, les
Sterot. Oui. C'est bien placé, les Sterot, hein. Ouais, là, c'est embêtant, c'est gênant. C'est un peu plus compliqué. Alors, le bonhomme, il est là. Hein? Qu'est-ce qu'il va se dire, le bonhomme? Qu'est-ce qu'il va se dire, le bonhomme? Il va se dire, je vais fauter, je fais un petit écart. Ça, c'est comme les régimes, tu vois. Je fais un petit écart et après, je récupère. Après, je vais faire un peu de footing, puis je vais récupérer. Du style, je vais faire une avéra, après, par derrière, je vais étudier un peu plus, donc on va équilibrer. Ça marche pas comme ça. Et je vais te dire, dans ce cas-là, tu sais quoi, ce qu'il dit là de Mourazaken, si tu réfléchis comme ça, tu peux faire ça même pour la Vodazara. Va à l'église, convertis-toi, parce que de toutes les façons, c'est du pipeau, c'est du bluff. Et après, tu dis, de toutes les façons, je reviendrai après. Théoriquement, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi tu le fais pas là-bas? Pourquoi je fais pas ça pour l'église? Pourquoi je vais pas me convertir à Shalom en me disant je reviendrai après? Parce que je suis conscient que ça tient pas la route. Je suis conscient qu'on fait pas ça. On peut pas le faire. Donc, encore une fois, c'est un autre piège du Yitzhara qui me dit je vais fauter et je vais faire tes chouvas. Alors, par rapport à la question de Avraham. Avraham, il a dit des fois une personne, tellement il a fauté, qu'il s'est mis dans un engrenage qui peut plus sortir. C'est ta question. Un de ces engrenages peut être une personne qui dit, d'accord, écoutez la question, qu'est-ce que vous pensez d'une personne? Il a une avéra bien juteuse qui se présente devant lui, l'avéra est intéressante, et il se dit, bon, il fait un calcul, tu vois, rationnel, cartésien, qui pour, c'est dans combien de mois? Hein?
C'est le 23.
Dans combien de mois, qui pour?
3 mois.
3 mois? D'accord. Il se dit, je fais l'avéra, il y aura qui pour. Qu'est-ce que vous pensez d'un jeu comme ça? Hein? Oublie que c'est facile. Et alors, c'est facile.
Mais alors?
Il va
abandonner. Il va abandonner?
Bah oui.
Ah non, c'est forcément, c'est pas là.
Mais attends qu'il meurt pas d'abord avant qu'il court.
Qu'est-ce qu'il y a? Débit, crédit.
Je l'ai pardonné.
Est-ce que ce juif-là peut être pardonné à qui pour lui ou non? Pourquoi non? Mais alors, Dieu ne pardonne pas tout à qui pour? Écoutez cette Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit que celui qui dit je vais fauter et je veux faire teshuva.
On ne lui donne pas la permission.
On ne le laisse pas faire teshuva. Mais attention, l'erreur que les gens font quand ils entendent ça, c'est l'erreur. Quand ils entendent le mot on ne le laisse pas faire teshuva, ça veut dire qu'ils comprennent, raccourci, il ne pourra pas faire teshuva. C'est pas ce qu'a dit la Gemara. On n'a pas dit il ne pourra pas faire teshuva, on a dit on ne le laissera pas faire teshuva. Ça veut dire on lui mettra les bâtons dans les roues. C'est-à-dire quand il pourra faire teshuva, on lui mettra les bâtons dans les roues. Mais s'il a forcé ce bonhomme, il peut revenir. Parce que la Gemara nous dit En davar a omed bifne a teshuva. Il n'y a rien qui peut se tenir devant la teshuva. Donc ça, c'est la réponse à ta question. Parce qu'il y a deux gemarotes. D'un côté, il y a une gemara qui nous dit ici, une personne a dit « je faute et je ferai teshuva », on lui mettra le bâton dans les roues. D'un autre côté, il y a une autre gemara qui te dit « il n'y a rien qui peut bloquer la teshuva ». Alors comment ça marche? La réponse est très simple. Si j'ai pas fauté en comptant sur la teshuva, j'ai fauté en me laissant aller, là, dans ce cas-là, quand je fais teshuva, ça décolle rapidement. Si j'ai fauté en comptant sur la teshuva, Dieu me laisse pas faire teshuva, il met les bâtons dans les roues. Mais si je force et je casse les bâtons dans les roues, et ben je vais faire teshuva.
Alors c'est le seul moment où tu peux casser.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a rien qui peut retenir juste faire teshuva. Mais il faut casser les bâtons.
Mais il faut préciser que la teshuva
est la volonté. Quoi?
La teshuva ne marche pas partout.
Il y a des choses pour lesquelles il faut la mort. Oui, pourquoi pas?
Mort, qui pour,
oui, pourquoi pas?
Sourire.
Et alors? Pourquoi pas? D'accord? Voilà. Donc c'est ce que veut expliquer Céline Morazaken. Donc vous avez compris pourquoi il explique tout ça ici. Pour expliquer qu'en vérité, il ne faut pas se faire avoir dans les bêtises du Yetzara. Le Yetzara, il te dit, Navera, c'est pas grave, alors que c'est grave. Le Yetzara, il dit, tu peux pas le faire. Alors tu peux le faire. C'est difficile, mais tu peux le faire. Le Yetzara, il dit, on fera teshuva après. Mais dans ce cas-là, va rentrer dans l'église et fait teshuva après. Donc on se fait embobiner par Yetzara.
Il rentre dans l'église pour faire teshuva?
Ah, pour faire teshuva? Ah. Rentre dans l'église pour faire teshuva. Ça marche pas comme ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'en vérité, au fond de nous-mêmes, on sait très bien que ça marche pas comme ça. Tu peux pas dès le départ embêter quelqu'un et le dire après. Je compte, d'accord, de le dire après. Je compte faire teshuva. Ça se fait pas. C'est comme si vous savez quoi, à quoi ça ressemble. C'est comme si je viens insulter quelqu'un en me disant de toutes les façons demain je vais lui dire pardon. C'est horrible. Excusez-moi, c'est horrible. C'est manipulateur, c'est horrible. J'espère que ça vous arrive pas. Ah bon.
Mais qui ça s'appelle de la manipulation. Pardon, peut-être. C'est ça le but. Le pardon n'est pas forcément accepté.
Et même s'il accepte. C'est moche de ma part. C'est moche. Je vais l'insulter en me disant toutes les façons de demain je vais dire merci, pardon, et il va me pardonner. C'est moche. Normalement, quand on insulte, ça peut être par exemple, on s'est laissé aller. Bon, t'es laissé aller, tu t'excuses. C'est moche, c'est la même chose. Qu'il dit. Quelque part, on est un peu comme ça avec Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Je sais très bien que Kippour va arriver dans 3 mois. Je sais très bien que demain je devrais aller à la synagogue, je vais faire la tefila. Je me dis bon. Hein.
Mais pardon, Kippour n'est pas automatique. Hein.
Il y a aucun automatique. C'est Marloquette. Il y a un avis qui dit que c'est automatique.
Mais
bon,
c'est pas
parce que là. Même si il fait bidouille.
Bah oui.
Parce qu'on veut, c'est automatique.
Plus automatique, ça change tout, hein.
Et même si tu dis qu'il n'est pas automatique, et ça change. Si ce juif, il ferait une vraie teshuva.
Ouais, et puis une vraie teshuva, on ne parle pas.
Ah, mais attends, mais non. Il a fauté en comptant sur la teshuva.
Il y en a qui te disent, qu'est-ce que tu veux? Moi, jusqu'à la dernière millième de seconde de ma vie, je peux sincèrement dire j'ai fait tchouva.
C'est vrai.
Et j'ai regagné.
Tu as raison.
Si Dieu veut.
Tu as raison.
Alors attends, je vais pas me priver un petit hot dog et un Big Mac.
On le laissera pas faire tchouva la dernière seconde. On lui mettra le bâton dans les roues.
Ouais, on va laisser, mais le regagné. Il
a déjà sur.
C'est Rabbi Akiva qui dit dans la Gemara. Il dit c'est écrit Veshuv Yamecha Lifne Mitatar. Fais tchouva un jour avant ta mort. Alors les élèves ils ont posé la question, ils ont dit mais comment on peut savoir c'est quand le jour avant la mort? Il leur a dit comme on sait pas, donc faire tous les jours tchouva.
Il y a un plaisir de la tchouva, faut pas oublier ça aussi.
Oui.
Il y a une joie de la tchouva qui peut être plus forte que les péchés qu'on a envie.
Oui, mais là on est dans l'étape de la faute. Là on est dans l'étape de la faute pour expliquer comment en vérité on se fait avoir par le Yitzhara. On se fait avoir. D'accord? On va lire encore quelques lignes et après on va s'arrêter. Donc dis-moi, on n'a pas vu le temps passer. On va faire le piquen et quand même. Kol Ish Israël. Donc on est dans les mots, je vous dis dans les mots où on est. Comme ça on se perd pas. Marcel, qu'est-ce qu'on pense de ça? On t'a pas entendu.
C'est dur.
Hein? Pour le thème, qu'est-ce qu'on pense? T'es d'accord, tu achètes?
Même sur le.
Alors.
Il y a une mitzvah de teshuva tous les jours.
Page 3, oui, c'est Misa. C'est Misa de revenir si on a fauté.
Si on a fauté. Ouais.
Comme la Misa de divorcer.
Misa de divorcer?
Oui.
De père.
La mitzvah, c'est que si on veut divorcer, si on veut divorcer, il faut divorcer comme ça.
Fais-le comme ce qui est marqué dans la Torah.
Ça veut dire différent. Tu dois le faire, il y a un protocole.
Il y a une mitzvah que pour divorcer, il faut divorcer d'une manière. C'est nous, 613 mitzvot. On est à la page 312. 312, Serge.
Il est obligé de les faire dans ta vie. Hein.
Voilà. Il y a une autre chose aussi qui s'appelle reprendre sa divorcée.
Oui,
c'est ça.
Oui.
La mitzvah. Ah, oui. Il fait deux fêtes comme ça.
312,
ah non, ça arrive.
De quoi?
Je connais des
cas où on dit ouais, c'est vrai, c'est rare. Ça arrive.
Ok.
Ah, chez Omer, dans les mots. Page, donc on est à la page 312, en haut de la page.
Ouais.
Afsh, donc c'est l'étude du 26 Shvat. Afsh, Omer Echet Aveyashuv, bien que les Chachamim m'ont dit que celui qui a dit Echet Aveyashuv, celui qui dit je vais fauter et je vais revenir, En ma speaking, on le laisse pas faire teshuva. Pourquoi on le laisse pas faire teshuva? Vous savez pourquoi la Gemara explique? Elle dit parce que la teshuva est ton accusateur, puisque t'as fauté à cause de la teshuva. Donc l'accusateur peut pas devenir le défenseur. Vous comprenez la logique? Comme tu as fauté à cause de la teshuva ne peut plus te défendre. C'est une logique qui est fine. Donc bien que c'est écrit que celui qui faute en comptant sur la teshuva, on le laisse pas faire teshuva. Aïn, ça veut dire chez En Machazik Kimbeyado, ça veut dire qu'on ne l'aide pas. Liot lo chez Atakosher. Dieu nous donne Dieu de temps en temps nous fait des appels de phare pour nous pousser à faire teshuva. Celui qui a fauté consciemment en comptant sur la teshuva, il n'aura pas ses appels de phare. On lui mettra les bâtons dans les roues. Nous autres, qui ne sont pas comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, il nous fait des appels de phare de temps en temps. Il nous aide. C'est écrit que quand une personne veut faire teshuva, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à faire teshuva. Et ça, c'est pour une personne, d'accord, qui n'a pas cherché à fauter. qui s'est laissé aller. Mais quand c'est une personne, quand c'est une personne qui a fait exprès de fauter, celui-là, on laisse pas faire teshuva. Aval, mais im dacha kasha'a, si il a insisté, rabotaï dans les mots, ve'asa teshuva, et qu'il a fait teshuva. D'accord? El lecha davar aomed bifnei teshuva, il y a rien qui tient devant la teshuva. Alors je vous pose une question très simple. On va se remettre maintenant dans la tête de ce juif, qu'il y a un maboul, il y a un goy qui vient le voir avec un pistolet, et qui lui dit, prosterne-toi devant cette croix, ou je te tue. Qu'est-ce qu'il va faire le juif?
Il va se laisser tuer.
Ouais. Pourtant, pourquoi il ne fait pas le calcul suivant? Je vais me prosterner et demain je fais teshuva.
C'est un choc, c'est une obligation de toi.
Pourquoi il ne ferait pas ça?
C'est une obligation de toi.
Théoriquement, il n'y a rien qui tient devant la teshuva. Théoriquement. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il y a un problème. Il sait que ça ne marche pas comme ça. Pourtant, théoriquement, il aurait pu le faire. Théoriquement, il n'y a rien qui. Il peut le faire. Il peut fauter et le lendemain, on lui met le bâton dans les roues et il fait quand même teshuva et ça marche. Pourquoi il... Oui, il le laisse pas, attention. Mais s'il veut, s'il force, il peut.
Ça marche pas.
Non, on n'a pas dit que ça marche pas. Attention.
Pour certaines avérotes, ça marche pas.
Attention, personne n'a dit que ça marche pas. Ça n'existe pas que ça marche pas. Ça marche. Seulement, il y a le bâton dans les roues.
Tu vois, si tu te prosternes, ça marche pas.
Qui t'a dit que ça marche pas?
La semaine dernière, on n'a pas dit ça.
Non, on a dit que sur ça, c'est une chose que dans ce monde, tu ne peux pas faire tes chouvas.
Voilà, c'est ça.
Ok, alors tu vas chouvas dans mon futur.
Ah,
ouais. Alors,
on va faire Teshuva dans le
monde. Alors, c'est quoi le problème? Eh ben, il fera Teshuva avant sa mort, il va mourir, il fera Teshuva, il va partir au Gan Eden, c'est quoi le problème? Et pourtant, est-ce qu'on le fait? Non, on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? On le fait pas parce qu'on sait, d'accord? On le fait pas parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y en a un?
Non, mais
l'inquisition. Oui, marginaux. C'est vrai, tu as raison.
Bah oui.
Mais la majorité des cas chez les juifs, ça s'est pas fait. Parce qu'un juif, il a toujours le libre arbitre, il fait ce qu'il veut.
Oui, mais bon.
Mais on a des tas d'exemples dans l'histoire, des gens qui ont donné. C'est même plus une décision.
Ceux qui ont été amenés.
À un moment, les juifs qui sont passés par ça, qui sont sortis après parce qu'il y a eu des miracles, ils ont dit que c'est même pas une décision. C'était un instinct. Instinct du déité.
Il
n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait une décision.
Pour laisser mourir, pour laisser vivre.
Non, pour laisser mourir.
Oui, mais pour laisser vivre, c'est.
Non, mais pour laisser vivre, c'est pas sûr que ça soit bien. Je sais pas, c'est quoi le dîner Maran?
Dîner Maran, c'est pas simple. Le dîner Maran, normalement, ils n'auraient pas dû le faire.
Ils n'auraient pas dû.
C'est sûr qu'ils n'auraient pas dû le faire. Après, on a essayé. Après.
Je ne pense pas, mais tu le fais.
D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si.
L'expulsion, ça a été de leur dire si vous restez juif, vous vous barrez.
Voilà.
Vous savez qu'il y a eu la polémique. Il y a eu la polémique après sur les maranes.
Les maranes, c'est des conversions.
Rabotaï, il y a eu la polémique sur les maranes à l'époque de Maïmonide. D'accord. Il y a eu une grande polémique à cette époque-là. La polémique était que il y avait des communautés. Enfin, c'était pas exactement les maranes, mais c'était une communauté comme ça qui avait ce même problème. Et on commençait à parler. On disait oui, ces gens-là, c'est pas des juifs. Et Maïmonide, en personne, il s'est mouillé. Il a écrit une longue lettre pour prouver qu'ils sont juifs. Il n'a pas justifié ce qu'ils ont fait.
Oui. Un juif reste toujours juif. C'est
non, mais attendez. Non, ça veut dire. Non, c'est des raisons qui ont dit ces gens-là, c'est des renégats, il faut les mettre dehors, etc. Et Maïmonide, il a écrit une longue lettre pour prouver que non. Pour prouver que c'est des juifs.
Oui, peut-être que grâce à eux, il y a aussi pas mal de juifs qui existent aujourd'hui.
Ou des maranes,
si. Faussement, ils vont retourner à la religion.
Marcel, ils étaient dans l'erreur. C'est sûr qu'ils étaient dans l'erreur.
Pas nous, mais il y en avait un qui sont.
Non, il
n'y
a pas
de juifs, c'est maintenant religieux qui descendent des
marades. Ils étaient dans l'erreur. Je ne sais pas s'il y en a qui descendent des
marades. Je ne pense pas. Des juifs religieux qui descendent des marades maintenant?
Oui.
Je ne sais pas. C'est une grande
question. Il y a des juifs qui sont aperçus qu'ils étaient d'origine juive.
Peut-être des aventuriers chez
nous. Ok. Bon, on va terminer par là. Allez, Rabotaï, on y va. Alors, dans les mots, ce qui explique c'est le Mourazaken. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas envie de bâcler. D'accord? La Mourazaken, donc il s'arrête là, donc la notion. Rabotaï, on va résumer juste ce qu'on a expliqué aujourd'hui. S'il vous plaît, deux secondes. On va résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On se fait.
C'est bon, Rabotaï?
Juste deux secondes, hein, on termine. On va résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On a expliqué plusieurs points. On a dit que le cours d'aujourd'hui était basé sur une idée qu'on a expliquée depuis le premier chapitre. Kikarov elecha davar meod. La chose est accessible. Pas facile, accessible. Accessible, ça veut dire que c'est peut-être difficile, mais c'est faisable. Pourquoi elle est accessible? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai ça en moi. En plus, parce que faire une avéra, c'est une folie. C'est clair qu'une folie, normalement, c'est pas normal de le faire. Donc on a dit, en plus, j'ai ça en moi de me retenir. En plus, on te demande même pas de changer ton caractère. On te demande simplement de te retenir. C'est beaucoup plus facile. En plus, le Yetzara, il nous arnaque. Comment il nous arnaque? Il te dit, cette avéra, elle est moins grave que celle-là. Faux! C'est faux, ça change rien. Cette avéra comme l'autre, tu te sépares d'Akadosh Baruch Hu. En plus, le Yetzer HaRa te dit, oui, mais tu fais l'avéra, mais tu reviens après. Bah, fais ça pour la Avodah Zara aussi. Donc c'est des arguments qui tiennent pas la route. Donc on se fait avoir parler de Sarah. On se fait avoir. C'est une folie. Quand tu réfléchis à tout ça, ça te facilite à ne pas tomber dans le panneau du Yetzirah. Sauf que tout ça c'est très bon en théorie, mais dans la pratique, je pense pas qu'avec ce chapitre on va arrêter de faire d'Averot. Pourquoi? Ça c'est le thème la semaine prochaine. Je vais expliquer comment, avec tout ce qu'on peut dire, être juif religieux, ça demande beaucoup de labeur. Il y a Gata, il y a la Yigia. Ne croyez pas que quand vous voyez des gens qui sont devenus grands dans la Torah, c'est des gens qui se sont réveillés un matin, c'est des génies qui ont découvert le monde et que c'est fini, tout a décollé. Le cours de la semaine prochaine, on va expliquer comment, au-delà de cette notion de croire que c'est possible, c'est ce qu'on a expliqué, yes we can, hein, si on peut dire, parce qu'on peut rendre même des goyim, yes we can, ça c'est très vrai, que si je suis pas persuadé que je peux le faire, je le ferai jamais. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que pour réussir, il faut travailler. Et pour travailler, il faut se fatiguer très durement. Ça, ça va être le thème de la semaine prochaine. Yagati ou Matsati Tamir. Ce qui est très, très intéressant, vous avez dû remarquer certainement pour ceux qui ont des enfants, que les enfants au Gan Israël et au Messibot Shabbat, ils font les psukim. Et dans les psukim, il y a deux, c'est bon,
on va vous mettre au fond de la classe, toi.
La classe,
on n'a pas parlé, on n'a pas dit un mot jusqu'à maintenant.
Quand on est, quand on est en premier rang devant le prof, on.
C'est incroyable,
là. Hein, de se retenir. Alors, je termine avec ça. Dans les deux psukim que les enfants font, vous avez dû remarquer que y a, c'est des deux psukim qui ont été sélectionnés par le rabbi. Et parmi ces deux psukim, il y a deux psukim intéressants qui doivent retenir notre attention. Premier pasouk, le pasouk Kikarov et l'Echad Avar Meod. On apprend à un enfant dès le plus jeune âge, Kikarov et l'Echad Avar Meod, ça veut dire sache que c'est possible. Premier, ce qu'on a expliqué le cours d'aujourd'hui. Que c'est possible, c'est faisable, ne dis pas que c'est pas faisable. Dans les autres psukim, il y a un autre pasouk qui dit Yagati ou Matsati Tamin. Expliquer aux enfants l'importance du labeur, l'importance de se fatiguer. Ça, c'est le thème la semaine prochaine. Comment se convaincre qu'on doit se travailler, qu'on doit se fatiguer, et qu'il faut du riyoun, il faut de la yegia, etc., etc., etc. La semaine prochaine, je vais vous expliquer comment il faut apprendre à mettre des charges sur son dos. Et comment c'est en portant des poids, plus on apprend à porter des poids, et plus on arrive à en mettre dessus. D'accord? On s'entraîne. Au début, tu portes deux poids, tu crois que ça y est, c'est fini, je peux plus faire plus que ça. Tu rajoutes un troisième, un quatrième, un cinquième. Et c'est justement en se fatiguant qu'on découvre en nous des forces qu'on ne connaissait pas. Mais ça, il faut qu'on développe ça très longuement. On aura un cours entier que sur ça, peut-être même plus qu'un cours. Ouais, on se dit ça la semaine prochaine.
Merci.